chronique terrienne, une fois par mois sur Radio Saint-Aff par Cécile Blanche.
Aujourd'hui, une chronique terrienne un peu particulière. Je vais vous parler de l'eau. J'ai saisi l'occasion de la foire Alternabio qui se déroule en principe le 6 juin et au cours de laquelle l'eau sera le sujet principal, avec des conférences et des projections de documentaires. Nous allons donc célébrer l'eau, cette merveille de la nature dont nous dépendons tous pour survivre et qui manque déjà à des centaines de millions de personnes. Chantée, sacrée dans toutes les cultures, sauf la nôtre aujourd'hui, elle est un de nos biens communs les plus précieux et a donné naissance à de nombreux mythes et légendes. L'eau est le premier élément, la matière première préexistant à tout, et d'où est née la vie. Un exemple, parmi de très nombreux autres, de la Chine aux Amériques en passant par l'Inde et l'Europe, pour les Dogons du Mali, relaté par l'ethnologue Marcel Griol, la force vitale de la terre est l'eau. Même dans la pierre, il y a cette force, car l'humidité est dans tout. L'eau est un élément familier. Elle évoque la fontaine, le lavoir, qui sont des lieux de sociabilité. Elle évoque le pont, qui est le symbole de l'unité entre deux rives. Mais l'eau, les sources, les fleuves, autour desquels ont pu se développer des civilisations florissantes, sont aussi à l'origine de nombreux conflits entre tribus, entre groupes humains qui veulent en jouir. Des règles d'usage strictes, permettant de vivre en paix dans le village ou dans la contrée, ont été élaborées tout au long des siècles, comme en Andalousie ou en Camargue. Mais qu'en est-il sur notre terre d'aujourd'hui ? Où toute autre considération que l'appât du gain est hors de propos et où la financiarisation de tous les domaines est la règle. Le problème de l'eau a de multiples facettes. Nous n'en aborderons que quelques-unes. Que peut-on dire ? Il y a l'eau qu'on boit et il y a l'eau agricole. Qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, le scandale est le même. la pénurie organisée, le déni du droit à l'eau pour tous, les pratiques irresponsables. Nous ne parlerons pas ici de l'utilisation industrielle. Bien que ayant un impact important sur l'environnement, sa consommation nette, c'est-à-dire la différence entre l'eau utilisée et l'eau restituée au milieu naturel, ne représente que quelques pourcents. Cependant, elle est un réel problème environnemental et sanitaire, par le réchauffement qu'elle provoque, en particulier dans les centrales nucléaires, et les pollutions qu'elle entraîne. Ce sont les marchands, constitués en groupes multinationaux, qui prétendent prendre possession de l'eau et en privent des millions d'individus qui ne peuvent ni lutter ni payer cette eau. Un Conseil mondial de l'eau, en partenariat avec une organisation appelée Global de l'eau, a été créé à l'initiative de la Banque mondiale, des grandes sociétés internationales, avec le soutien des gouvernements des pays riches et de l'ONU. C'est ainsi qu'a été créée une oligarchie mondiale qui prétend définir et mettre en place une politique mondiale de l'eau selon un modèle considéré comme rationnel et plus efficace. Ce modèle, basé sur la privatisation de la gestion de l'ensemble des services de l'eau, appelé partenariat public-privé, s'est avéré n'être qu'un moyen de prise de contrôle politique et économique sur les ressources hydriques de la planète, par les multinationales. Pour s'opposer à ce mouvement général de privatisation et de financiarisation de la distribution de l'eau, en 2003 avait lieu le premier forum alternatif mondial de l'eau. Objectif : établir un agenda d'action pour le droit à l'eau pour tous. En partant des revendications suivantes, la reconnaissance constitutionnelle de l'accès à l'eau comme droit humain universel, indivisible et imprescriptible, la reconnaissance constitutionnelle de l'eau comme bien commun, la reconnaissance de la nécessité d'un financement public pour assurer l'accès à l'eau pour tous, enfin la promotion de pratiques démocratiques et participatives dans le secteur de l'eau, notamment la gestion. En 2010, un certain succès pour ces mouvements. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est reconnu comme un droit humain par l'ONU. Certes, intéressant cette reconnaissance de l'eau comme bien commun. Mais en 2021, où en sommes-nous ? Si vous allez sur la toile pour avoir quelques infos sur l'eau dans le monde, vous tombez sur des titres et des articles comme ceci. Dans la tribune de septembre 2020, on peut lire « Qui sont les géants de l'eau dans le monde ?» Largement dominé par les entreprises françaises, le marché de la gestion de l'eau dans le monde est encore fragmenté. En se mariant avec Suez, Veolia, le numéro 1 des services à l'environnement, eau, déchets, recyclage, énergie, générerait un chiffre d'affaires de plus de 40 milliards d'euros. Et le marché de l'eau est estimé à 600 milliards d'euros. UBS titre dans un de ses papiers en mars 2017 « Investir avec succès. Déplacement à long terme, potentiel de croissance du marché mondial de l'eau ». L'écart croissant entre l'offre et la demande d'eau vous ouvre des possibilités de placement intéressantes et diversifiées. La population mondiale ne cesse de croître. Si en 2011, elle totalisait 7 milliards d'individus, selon l'ONU, ils seront en 2025 8 milliards à peupler la planète, d'après les prévisions. Nous pensons que cette évolution aura les incidences significatives suivantes sur le marché de l'eau. Alors que seuls 20% de la population mondiale vivait dans des zones urbanisées en 1950, cette part sera de 70% en 2050. Et plus loin, l'immense besoin d'investissement exige de nouvelles stratégies de financement. Les problèmes de qualité de l'eau deviennent de plus en plus pressants dans les grandes métropoles. Nous pensons que ce sera dans une mesure croissante le secteur privé, et non l'argent public, qui assurera le financement avec des opportunités d'affaires rentables. Les pays émergents investissent de plus en plus dans l'infrastructure de l'eau et des eaux usées. C'est dans ce domaine que nous voyons les meilleures possibilités de placement, etc., etc. Autre article, la bataille de l'eau en bouteille. Dans la revue du commerce international, écrit par Florian de la Bracherie, ingénieur géographe, qui nous dit « Cet article souhaite aborder la question de l'eau en bouteille, car elle illustre l'aboutissement le plus poussé du marketing. L'eau potable, qui est, avec l'air, le bien le plus primaire et le plus indispensable à la vie de tout être humain, est décliné en produit de consommation, sous toutes ses formes, ses goûts, ses couleurs et ses prix. Les marchés les plus prometteurs sont l'Asie, notamment le Japon, et le Pacifique, où l'augmentation annuelle atteint plus 15% grâce à des partenariats. 20,5% pour Nestlé en 2005. Aux États-Unis, 57% des Américains boivent régulièrement de l'eau en bouteille. La croissance des parts de marché y est de 12,2%. Nestlé a réalisé une année exceptionnelle avec plus 16,5% de croissance en 2005. Etc., etc. Toujours le même refrain. Près de chez nous, à Vittel, un fait signalé par le mensuel L'Âge de Fer. Nestlé a mis la main sur les nappes phréatiques vosgiennes et ses 10 milliards de litres d'eau pompés illégalement depuis 2007. Tout de même, un article, toujours sur le web, pour présenter le problème autrement. Dans Solidarité internationale, on peut lire « Malgré le fait que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement soit reconnu comme un droit de l'homme depuis 2010, près de 2,2 milliards d'êtres humains n'ont toujours pas accès aujourd'hui à des services d'alimentation domestique en eau potable, gérés en toute sécurité. Pire, en Afrique subsaharienne, le nombre de personnes utilisant de l'eau probablement contaminée a augmenté de 45% entre 2000 et 2017. 4,2 milliards d'êtres humains ne disposent toujours pas de services d'assainissement gérés en toute sécurité, soit 55% de la population mondiale. Résultat, 2,6 millions de personnes meurent toujours chaque année de maladies liées à l'eau, dont 361 000 enfants de moins de 5 ans, soit 5 décès par minute, ce qui fait de l'eau insalubre une des premières causes de mortalité au monde. Et cette mortalité est signalée depuis plus de 10 ans. Parenthèse, le Covid n'en fait pas autant. Et pourtant, ça a mobilisé tous les États. Il est vrai que c'est une bonne opportunité pour nous priver de liberté pour un temps indéterminé. L'aubaine, quoi, pour nos dirigeants qui ne rêvent que de bâillonner cette populace encombrante. Sans oublier les bénéfices réalisés pendant cette période par les GAFA et autres industries pharmaceutiques. Thank you. Quant à l'eau, prélevée pour les besoins de l'agriculture, il y a des décennies que l'alerte est donnée. Assèchement des rivières, épuisement des sources et des réserves profondes, sans parler de leur pollution. Et malheureusement, ces faits ne ralentissent en rien les pratiques agricoles gourmandes d'eau. Et alors que se généralisent des périodes de sécheresse et des périodes d'inondations catastrophiques, alors qu'on sait qu'elles sont prévisibles avec le changement climatique. Ce changement dont nos gouvernements ne veulent pas tenir compte et inverser ces tendances délétères pour l'humanité et l'environnement qui nous permet de vivre. Pourtant, nous connaissons les solutions. Changer de type d'agriculture, abolir la financiarisation de tout ce qui touche à l'alimentation. Et ce n'est pas insurmontable. Il y faut seulement une volonté politique ferme et responsable. L'âge de fer, fer F-A-I-R-E, mensuel indépendant, édité par une SCOP, consacre une grande partie de son numéro de mai à un dossier sur l'eau douce. Les chiffres qu'ils ont puisés dans les documents du ministère de la Transition écologique, rapport de 2019, et de Eau France, rapport d'octobre 2020, sont très parlants et précisent bien les tenants et les aboutissants de ce problème. Et la responsabilité de l'agriculture industrielle. Je vous conseille vivement la lecture de ce numéro de l'âge de fer, mais aussi des autres. Qu'allons-nous devenir ? Où vont se réfugier les nymphes, les fées des ruisseaux ? Et que sont devenus les serpents et les dragons, gardiens des sources et des fleuves aujourd'hui ? Ont-ils déserté notre terre, où leurs pouvoirs sont désormais ignorés ou niés, laissant les hommes à leur sort funeste ? Voilà, cette émission se termine. Vous pourrez continuer à vous informer sur ce problème et d'autres, en venant assister au programme préparé avec soin par les membres de l'association Alternabio. Et ce, le 6 juin. Côté musical, aujourd'hui et exceptionnellement, j'ai choisi du classique. Sibelius, extrait de Cuolema, Pablo Casals interprétant le chant du ménestrel, et enfin, Deller Consort interprétant Purcell, Music for a Will. À bientôt sur la foire.